Frères et sœurs, bonjour. Je pense que nous vivons tous sur la même planète et nous vivons des moments difficiles dans le monde entier, aussi dans notre pays. Mais nous avons une espérance que le monde n'a pas. Notre espérance est en Dieu le Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et assistée par le Saint-Esprit. Ça va ? Seulement, n'avez-vous jamais entendu des inconvertis ou même des membres de notre famille nous dire devant tout ce qui se passe dans le monde, mais enfin, s'il y avait un bon Dieu, ne pourrait pas arrêter ce virus? Vous avez entendu ça? Et mais dans nos familles, quand on parle, et ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et ton Dieu, où est-il? Eh bien, ce matin, je vous propose d'avoir la réponse de Dieu. Quand on dit « Où est Dieu ? Que fait-il ? Que peut-il ? » Voici la réponse. On y va ?
Oui.
Deux lectures. Tout d'abord, dans le livre de l'Apocalypse, hyper facile à trouver, au chapitre 21, l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, à la fin du Nouveau Testament, une phrase que vous connaissez bien et que nous pouvons dire à tous ceux qui nous disent « Où est ton Dieu et que fait ton Dieu ?» Et je voudrais arrêter votre regard sur trois grandes vérités. Apocalypse 21, avant-dernier chapitre. J'ai bien entendu les feuilles tourner. C'est pas l'automne parce qu'elles ne tombent pas nos feuilles, elles se tournent. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Jean dit, apôtre, « Celui qui était assis sur le trône » dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il ajoute, il écrit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et on pourrait dire de toutes les façons...
Amen.
Amen. Celui qui est sur son trône dit, je fais. Quand on nous dit souvent, qu'est-ce qui fait ton Dieu ? La Bible me répond, voici ce qui fait ton Dieu. Il est sur son trône, et qu'est-ce qu'il fait ? Il est écrit, je fais toute chose nouvelle. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez réellement besoin qu'il se fasse des choses nouvelles dans votre vie. Parce que vous subissez des épreuves, des difficultés, des combats, et vous dites, et on dit, pas simplement vous, mais on dit, moi aussi je dis, des fois on dit, Seigneur, je ne vois pas comment je vais me sortir de là. Je suis devant un problème, et on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de sortie. On prie, on prie, on prie, on cherche, on cherche, on cherche, on demande de l'aide, de l'aide, de l'aide, puis on reste sur place. Et des fois, on ajoute, en téléphonant au pasteur, « Vous savez, frère, je sais pas, ça va pas, je sens pas la présence de Dieu, je lis ma Bible, mais je retiens rien. » Je sais pas si ça vous arrive, ça. Non, ça arrive qu'aux autres. Alors, le Seigneur nous dit ce matin, « Voici, je suis sur le trône, c'est pas Satan qui est sur le trône, le trône le plus élevé, c'est bien notre Père, notre Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Je fais toute chose nouvelle. Ma sœur, mon frère, Dieu te dit ce matin, d'après sa parole, qu'il va faire dans ta vie toute chose nouvelle que tu n'imagines pas. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Alors, on va demander au Seigneur de nous donner un détail pour bien comprendre. Et la deuxième lecture, je vous propose, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Vous savez, on dit que le prophète Ésaïe, c'est l'évangile prophétique dans l'Ancien Testament. Et je voudrais retenir quelques phrases avec vous, si vous le voulez bien. Ésaïe, c'est assez facile à trouver d'ailleurs. Prenez les psaumes, tournez, arrivez au proverbe, tournez, et vous avez, pas trop loin, Ésaïe. Ésaïe, chapitre 43, verset 15. Voici celui qui est sur son trône, qui règne, notre Dieu. Il nous donne un message. Je commence la lecture au verset 15 du chapitre 43 du livre d'Ésaïe, le prophète. Le Créateur d'Israël, votre roi, ainsi parle l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en compagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, et nous pouvons dire quand même... Frères et sœurs, celui que nous servons qui est là ce matin, devant lequel on aurait tendance à se taire tellement il est grand, nous dit ceci, ainsi parle l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle, je suis capable, dit-il, de faire un chemin dans la mer. Avez-vous déjà vu ça, frères et sœurs ? Un chemin dans la mer. Oui, on a tout de suite là. On sait tout de suite ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël est passé, hein. Oui, mais un chemin dans la mer, car peut-être que ce matin vous vous trouvez devant une mer bien fermée et bien haute. Dieu est capable de faire un chemin là-dedans. Et comme c'est pas suffisant, il va dire, il va ajouter dans une autre prophétie, que je suis capable de tracer. Écoutez bien. Un chemin dans le désert. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être dans le désert. J'ai fait plusieurs missions au Sahel. Et on passait dans le désert pour prêcher l'évangile aux hommes bleus. Eh bien, vous savez, dès que vous quittez la piste, vous êtes complètement sans point de retour, sans point d'intérêt pour avancer. Et même s'il y a eu une tempête de sable, alors là, vous êtes complètement perdu. Dieu dit... Je vais faire un chemin dans la mer, ça c'est pas vu, et je vais faire un chemin dans le désert sans les ponts et chaussées. Je vais faire. Et comme c'est pas suffisant, eh bien, le Seigneur nous dit, dans un autre texte, eh bien, je vais faire un passage dans le Jourdain. Et on le sait, le Seigneur a fait un passage dans le Jourdain. Pas au moment où le Jourdain était le plus bas, mais le jour où le Jourdain était le plus haut. Eh bien, c'est ça le Dieu que nous adorons ce matin, mes frères et sœurs. Capable de faire un chemin, un passage, une route, là où il n'y a plus rien. Et si ce matin tu te trouves, frère ou sœur, dans une difficulté où il n'y a plus rien, ton Dieu te dit de ma part, ne t'inquiète pas, je vais t'ouvrir la porte. Car, il faut comprendre, Dieu, notre Dieu, mes frères et sœurs, a la capacité de créer une issue là où il n'y en a pas. Car j'aime cette parole de Jésus quand il se présente. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ça. Il dit « Je suis la porte ». Et une porte, c'est fait pour entrer ou sortir. Eh bien, mon Dieu, c'est la porte. Avec mon Dieu, j'entre et je sors. Je suis libre, que son Saint-Nom soit béni. Dieu est capable de tracer une issue sous nos pas. Et avec Dieu, mes frères et sœurs, on trouve toujours, il y a toujours une porte de sortie. Car c'est écrit, je crois, dans le Nouveau Testament, qu'avec la tentation, le Seigneur déjà a préparé un chemin. Alors ce matin, ne t'abats pas, adore ton Dieu, même si tu vois rien, s'il y a le désert, s'il y a le fleuve du Jourdain qui déborde, s'il y a la mer devant toi, ton Dieu te dit de ma part, je vais tracer un chemin.
Amen.
Voilà, alors cela nous amène à découvrir que Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué. Dieu ne veut pas qu'on fasse du surplace. Et voici la première pensée que j'aimerais partager avec vous sur les trois. Notre Dieu, qui est assis sur son trône, voit tout ce qui se passe dans le monde, et il entend même des gens qui s'opposent à lui, et Dieu rit. Ça fait rire Dieu, parce qu'il a tout entre ses mains. Et la première chose que je voudrais attirer votre attention, frères et sœurs, c'est sur la puissance de celui que nous avons chanté avec Gérard, « Nous nous approchons de toi, non pas au petit Dieu, mais au grand Dieu. » Notre Dieu, c'est écrit dans le psaume, notre Dieu est un Dieu puissant. Et par la pensée, je vous emmène à la cour du roi Pharaon. Pharaon, au temps où Israël était esclave, était tout puissant. Il se considérait comme Dieu. À ses gestes et à son doigt, il y avait la vie ou il y avait la mort. Lorsque Moïse, pas moi, mais Moïse et Aaron se sont trouvés devant Pharaon et lui ont dit « Dieu dit, laisse aller mon peuple. » Pharaon les a regardés et il a répondu « Non !» Ils sont revenus et ils ont dit un autre jour « Laisse aller mon peuple !» Et Pharaon a dit « Non !» Laisse aller mon peuple une troisième fois, et non. Laisse aller mon peuple une quatrième fois, non. Une cinquième fois, non, non, non. Et 10 plaies pour écraser Pharaon au point qu'il dise, allez, sortez dans le désert. C'est vrai ou pas vrai? Et ça, mes frères et sœurs, ça nous apprend que notre Dieu, dans sa puissance et dans sa grâce, peut faire pression sur l'oppresseur. Il a cette force-là. Même quelqu'un de mal disposé comme le Pharaon qui ose dire non, 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 Dieu un jour lui dit, mets ton masque, hop, et Pharaon fait glou, 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 en nage. C'est pas vrai, ouais. Eh bien, ce Dieu-là, il est là. C'est ce culte que nous lui rendons ce matin. Tu es le Dieu puissant. Tu règnes dans l'univers. Tu es le Dieu vivant. Et pour nous, un Père. Voilà pourquoi je trouve que c'est magnifique. Même si Moïse un jour et Aaron, ils en avaient un petit peu peur de ce Pharaon. Et alors Dieu lui dira, vous lirez chez vous, hein, on ne va pas le lire, mais c'est Exode 6.1, mais ça vaut la peine. Hein. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, t'inquiète pas, tu vas voir. Vous entendez ? Tu vas voir. Quoi ? Ce que je vais faire à Pharaon, tu vas voir. Ma sœur, mon frère, ce matin, ton Dieu veut que tu vois autre chose que ce que tu connais jusqu'à maintenant, une porte fermée, une mer devant toi, un grand désert, sans possibilité. Il veut que tu vois. Et car il l'a dit dans sa parole. Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Malachi, ou Malachi si vous voulez, au chapitre 3, au verset 10, Dieu dit, en ce qui concerne les offrandes, il dit « Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez !» Quoi ? Si je ne ferme pas le ciel, non ! Si je n'ouvre pas le ciel, pour les écluses du ciel, pour vous bénir. Croyez-vous que c'est vrai ?
Oui.
Seigneur, tu ouvres le ciel ce matin. Quand Jésus est venu sur la terre, le ciel s'est ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Et pour nous, enfants de Dieu, qui croyons en Christ ressuscité, le ciel est ouvert. Et nous attendons d'aller un jour rejoindre nos bien-aimés et le Seigneur pour l'éternité. Ce qui est donc important, c'est qu'on s'aperçoit que Dieu fait pression sur les ennemis. Et vous savez que, je crois que c'est Salomon qui a écrit dans le Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, d'une femme, qu'est-ce qu'il fait ? Il dispose favorablement même... Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Alors ne baissez pas les bras, mes frères et sœurs, devant les murs de Jéricho. Ne baissez pas les bras devant la mer Rouge. Ne baissez pas les bras devant le désert. Ne baissez pas les bras devant le Jourdain. Dieu peut faire pression sur ceux qui vous font mal ce matin. Et cela nous amène à la foi. Est-ce que tu le crois ? Tu verras, dit Dieu à Moïse. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Pharaon qui est tout puissant, il s'imagine pas ce que je vais faire. Et nous, c'est aussi vrai. N'est-il pas écrit, si tu crois, tu verras quoi ? La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est dire à un cadavre qui sent mauvais, Lazare, sors ! Et la mort est vaincue. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est prendre de l'eau et le transformer en vin. Et Dieu dit à Moïse, tu verras, tu vas voir ce que je vais faire. Ma sœur, mon frère, voilà le message que, premier message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi ce matin. T'es battu, attristé, peut-être découragé ou comprends plus, la Bible te dit rien, tu te sens las. Ton Dieu a décidé de faire pour toi aujourd'hui cette promesse qu'il va ouvrir une porte, un issue, que tu n'imagines pas. Est-ce que tu crois que c'est vrai ? Et il te dit, tu vas voir ce que je vais faire. Eh bien, que Dieu ce matin nous comble de foi et d'espérance pour que nous découvrions cette grande vérité. Mon Dieu fait pression sur ceux qui sont dans l'opposition contre moi et fait de moi un vainqueur. Ça va ? Deuxième message. Alors là, c'est un peu étonnant. Si vous lisez, après Exode 6, il y a Exode 7, il y a Exode 11, il y a 12, et puis alors il y a le 13. Alors le 13, il y a quelque chose de particulier, mes frères et sœurs, qui peut vraiment nous étonner et dire, Seigneur, au début de ma conversion, c'est vrai que tu as ouvert toutes choses, c'était formidable, c'était extraordinaire, j'étais heureux avec toi, et aujourd'hui, Seigneur, je tourne en rond. J'ai l'impression que j'avance pas, Seigneur. Je vais téléphoner au frère Gentil. Allô, frère Gentil. Ce serait gentil de m'expliquer. Que je tourne en rond. Je tourne en rond, je m'en sors pas. Je prie, je m'en sors pas. Alors, pour ceux qui tournent en rond et qui disent, enfin Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu fais ? Où sont tes promesses ? On est sorti et on tourne en rond. Alors écoutez, mes frères et sœurs, lisez chez vous, tranquillement, Exode 13, 18. Et alors, vous allez voir quelque chose. Je vais vous lire. Ne cherchez pas, je vais vous lire. C'est dans Exode 13, 18, toujours dans l'Ancien Testament. Mais une phrase qui est très importante. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, écoutez bien, Dieu ne le conduit point par le chemin des Philistins, quoique étant le plus court. Vous ne trouvez pas que c'est étrange ? Dieu ne conduit pas son peuple qui, depuis 4 siècles, alors qu'il ouvre la porte, et il ne prend pas le chemin le plus court. Eh bien, je le disais au Seigneur, c'est vrai, des fois, tu ne prends pas le chemin le plus court, puis on dit, Seigneur, je voudrais bien que tu... On ne dit pas, Seigneur, tu te remues un peu, mais enfin, Seigneur, tu fasses quelque chose quand même, hein ? Oui, c'est vrai, hein ? Je voudrais bien que tu interviennes, Seigneur. Il n'a pas pris le chemin le plus court. Seulement nous, les hommes et les femmes, nous prenons en principe le chemin le plus court. Quand je prends mon GPS, la première chose que je demande, chemin le plus court. Hein? On est comme... Et Dieu dit non. Tiens, mais est-ce que Dieu veut nous faire tourner en rond ? Eh bien, écoutez, il y a une petite phrase, il est écrit, Dieu les prit par un autre chemin, parce que le chemin le plus court passait par le pays des Philistins. Et Dieu dit, je crains que voyant les Philistins, vous rentriez en guerre et que vous soyez découragés. Et c'est pour nous éviter le découragement que des fois Dieu permet que le temps passe. Ainsi, ma sœur, ne geins pas, ne donne pas à l'adversaire des occasions de te toucher. Si le temps est long, crois que ton maître est le maître du temps. Et qu'il a tout dans sa main, que son nom soit béni. Oui, il fait tourner le peuple dans le désert. Hein, c'est vrai que le Seigneur ne nous a pas libérés pour avoir une vie chrétienne sous forme de pique-nique. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, mes frères et sœurs. Et il y a des déserts. Parce que dans ces déserts-là, il y a des écoles et on apprend beaucoup de choses. Donc, Dieu n'a pas fait passer son peuple par le chemin le plus court parce que Dieu voulait éviter à son peuple des combats dont il n'aurait pas la force. Ça va? Alors, on gémit plus. Seigneur, si je tourne encore en rond, c'est parce que tu veux m'éviter les Philistins. Première raison. Et comme Dieu en a quatre, voici la deuxième. « Je t'ai emmené dans le désert, dit Dieu. » Là, vous lirez ça dans Deutéronome, chapitre 8. « Je t'ai amené dans le désert pour t'éprouver, pour apprendre à connaître ton cœur, pour savoir si tu me suivras ou si tu ne me suivras pas. » Alors, voyez-vous, Dieu nous fait tourner en rond, excusez-moi, pour nous éviter certaines difficultés. Et des fois, Dieu nous éprouve. Je n'ai pas dit que Dieu nous tentait, hein. Dieu nous éprouve, et il écrit dans Deutéronome, pour savoir quelles sont les intentions de ton cœur, si tu me serviras et si tu me serviras fidèlement. Et alors je t'ai emmené, dit Dieu, Deutéronome 8, 15, dans le grand désert, dans l'affreux désert. Et dans ce désert, il y a des serpents et des scorpions. Et il y a du vent hurlant. Je t'ai emmené là-dedans. Si bien que si on n'a pas compris ça, au début de notre vie chrétienne, on aurait tendance à dire « Oh, quelle différence entre mon baptême et ce que je vis maintenant !» Non, non. Dieu est en train de t'apprendre deux choses. À te connaître toi-même et à le connaître lui. Or, le connaître lui, c'est la vie éternelle. Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. Et Dieu emmène son peuple dans le désert pour que son peuple apprenne à se connaître et le connaître. Vous savez, frères et sœurs, Pierre est devenu l'apôtre Pierre quand il a commencé à se connaître. Quand il ne se connaissait pas, il disait à Jésus, « Jésus !» Ah Jésus, mais je vais aller au tribunal pour toi. Jésus, mais tous ces gars-là, ils vont te lâcher tomber. Mais pas moi, mais pas moi. Il ne se connaissait pas. Mais quand il s'est connu avec son reniement, après s'être connu, il est devenu Pierre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu nous éprouve. Et si nous passons par des moments d'épreuve, ne baissons pas les bras. Parce que te connaître, je crois que c'est Jérémie qui dit au chapitre 2, te connaître éternel, tu es pour nous une source d'eau vive. Et Dieu dira à son peuple, moi qui suis une source d'eau vive, vous vous êtes détournés de moi pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, Claude, ça c'est vrai. Eh bien, si aujourd'hui, après notre baptême, on se trouve dans un grand affreux désert, avec des serpents, des scorpions, et puis des vents hurlants, écoutez ceci. Dieu nous équipe toujours, frères et sœurs, en tant que chrétiens, par des grandes promesses. Quand Jésus dit à ses apôtres, « Voici, je vous envoie au milieu des roses, des tulipes, des bananes et des oranges, au milieu des manguets. » Oui. Des loups, des brebis. Je vous envoie. Moi, j'aime Jésus parce qu'il cache pas la vérité. Hein. Je vous envoie au milieu des loups. Mais vous, les brebis, vous êtes plus fortes qu'un loup. C'est incroyable, ça. Je suis fort, je puis tout par celui qui me... Et celui qui me fortifie s'appelle... Très bien, mes frères et sœurs. Première promesse. Je vous envoie au milieu des loups. Et rien ne pourra vous nuire. Vous marchez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Dans l'Écriture, nous avons dans Acte 28 cette promesse, cette manifestation de la promesse de Jésus qui dit « Vous saisirez même des serpents. » Et l'apôtre Paul en a saisi un. Il n'avait pas prévu, mais enfin, vous savez, toutes les épreuves qui nous arrivent, on ne les a pas prévues. Hein. Il n'avait pas prévu, Paul, qu'au lieu d'avoir une branche d'arbre, il avait dans sa main une vipère. Et Dieu aurait pu très bien éviter que la vipère n'ait pas de croc. Non, Dieu a laissé la vipère mordre. Mais Dieu a délivré Paul et toute l'île de Malte a vu la puissance de Dieu. Ainsi, si Dieu permet une épreuve, tiens le coup, ma sœur, tiens le coup, mon frère. Et ceux qui se moquent de toi reconnaîtront que Dieu est Dieu et que Jésus est sauveur. Frères et sœurs, ce sont des promesses. Oui, vous me direz, oui, mais dans le désert, où il y a des serpents, qui ont mordu le peuple d'Israël. Ah oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Et si je désobéis à la parole, je donne de la force à Satan. Mais si je reste sur la parole, j'écrase l'ennemi. Sinon, bien sûr, les serpents peuvent avoir de la force sur moi, alors que la foi me donne la victoire. Donc, je passe par le désert, premièrement, parce que Dieu veut m'éviter des difficultés. Deuxièmement, je passe par le désert, Dieu le permet, parce que Dieu veut parler à mon cœur et m'enseigner ce que je suis et ce qu'il est, lui. La troisième raison pour laquelle un chrétien passe par le désert, c'est le prophète Osée, qui a osé dire, au chapitre 2, verset 14, « Je veux t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. » Mes frères et sœurs, on entend tellement de paroles aujourd'hui, dans tous les domaines. Sur les réseaux sociaux, on en entend des vertes et des pas mûres. Hein? Et on a besoin, mes frères et sœurs, pas simplement que nos oreilles, mais on a besoin que notre cœur entende. Et Dieu nous dit, je t'emmène dans le désert pour pouvoir parler à ton cœur. Pas pouvoir pour te corriger, te taper dessus, non, pour pouvoir parler à ton cœur. Ça veut dire pour pouvoir te parler avec amour, avec tendresse, avec miséricorde. C'est ça notre Dieu. Éviter les difficultés, éprouver notre personnalité, parler à notre cœur. Et quatrièmement, Dieu dit, je ferai jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Et on le sait par le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous l'explique, que ce rocher qui suivait le peuple d'Israël, c'était Jésus-Christ. Nous éviter les guerres, nous apprendre à nous connaître et à le connaître, parler à notre cœur et nous donner des fleuves d'eau vive qui jaillissent jusqu'en vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, le deuxième message. Premier message que nous avons lu, nous avons un Dieu puissant. Et là, nous avons un Dieu rempli d'attention pour nous, afin que nous soyons des vins. Et je termine. Dieu, dans le texte que j'ai lu avec vous, nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous savez, quand on vieillit, moi je sais ce que c'est, quand on vieillit, on a tendance à se nourrir d'un tas de souvenirs. Hein? On se souvient et le vient toujours sous. Voilà, je me souviens, ah oui. C'est vrai. Je sais que quelqu'un qui examine les Écritures me dit, Pasteur Harou, c'est pas biblique, parce que Dieu dit dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est pas ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi des choses que Dieu a faites et il va faire de nouveau. Souviens-toi qu'il y a du nouveau avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et si tu penses que le passé et ce que personnes disent, dans le temps, c'est dans le bon temps, du temps de Jésus. Oui, mais c'est aujourd'hui le temps de Jésus, mes frères et sœurs. Ah oui, sa bonté dure à toujours. Et cela nous amène à Ésaïe 41, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves et des sources dans la solitude. Je changerai le désert en étang et je mettrai dans le désert des arbres fruitiers. » Voulez-vous que, pour conclure, cette troisième pensée, non seulement un Dieu puissant, seulement un Dieu qui pense, mais un Dieu qui a des projets. Voulez-vous regarder, si vous avez gardé le livre d'Ésaïe ouvert, regardez avec moi le chapitre 35, il va nous servir de conclusion. Moi je le trouve magnifique, je voudrais le partager avec vous. Verset premier, regardez, si c'est beau. Le désert dans lequel tu es, ma sœur, mon frère, dans lequel on te dit tout le temps, où est ton Dieu, qu'est-ce qui fait ton Dieu? Ben voilà, verset premier, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera. les fleurs comme un narcisse, les brebis comme des roses. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec des chants d'allégresse, avec des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, c'est-à-dire les mains fatiguées. Affermissez les genoux qui chancellent et dites à ceux qui ont le cœur troublé, courage, ne criez point, voici votre Dieu viendra. Est-ce que c'est vrai? On s'arrête là. Avez-vous remarqué, on n'a pas le temps, mais soulignez dans votre Bible tout ce qui va pousser dans votre désert. Il est parlé de la joie, il est parlé de la paix, il est parlé de la fraîcheur, il est parlé des fruits, et il dit, et mon peuple tressaillera d'allégresse. Eh bien, dans l'évangile selon Luc, le Seigneur Jésus a entendu ses apôtres et ses disciples vers lui, il leur dit, alors, comment ça s'est passé? Seigneur, les démons même nous sont soumis! Et Jésus va leur dire, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette parole. Quand Jésus a entendu tout ça, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Non pas monter, mais tomber du ciel, comme l'éclair. Et il est écrit, et Jésus tressaillit de joie par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce matin, comme chaque fois qu'on se rassemble, est là. Alors, si Jésus a tressailli de joie, je vais vous le dire, c'est parce que quelques jours après, sur la croix du calvaire, le dernier mot qui va sortir de sa bouche, c'est un cri de victoire, un cri de triomphe, quand il dit « Tout est accompli !» Ça veut dire que Dieu va faire des choses nouvelles. Et vous avez vu dans la première lecture qu'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Ne pensez plus aux choses anciennes. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 2, « Ce sont des choses que nul homme n'a connues, nul homme n'a jamais entendues, nul homme n'a jamais pensé, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu ce matin veut nous offrir un gâteau, mes frères et sœurs. Oui, vous me direz, « Oui, mais vous savez, frère, à mon âge, après 30 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne, 8 jours de vie chrétienne, mais mes frères et sœurs, à qui Dieu a-t-il parlé dans le désert pour aller vers Pharaon? Vers un petit jeune? Vers qui? Moïse, il avait quel âge? T'es pas tout jeune hein, quand il est parti dans le désert. Puis son frère, t'es pas mieux, il avait 10 de plus. 80, 90, qu'est-ce que vous en pensez? Ceci pour nous faire comprendre qu'avec Dieu, rien n'est fini. Avec Dieu, tout peut commencer, que son nom soit béni. Souvenons-nous que pour traverser une vallée avec des roses, il faut d'abord traverser une vallée avec des déserts. Il ne faut pas renverser les rôles. Et si nous passons par le désert, un jour ou l'autre, nous passerons dans un chemin de roses par la grâce de Dieu. Si nous croyons que ce matin encore, Jésus prie pour nous. Trois choses. Quand on nous dit « Où est ton Dieu ?» Il est sur son trône. Et voici ce qu'il dit. Je vais faire une chose nouvelle. Capable de mettre ma main sur Pharaon et le changer. Capable de t'éviter la guerre en faisant passer un peu plus loin. Mais je suis ton Dieu avec la nuée, avec la gloire, avec la puissance de ton nom. Parce que je veux te connaître et connaître ton cœur. Dites, frères et sœurs, croyez pas qu'à la place de Dieu, on se serait fatigué? Parce que quand Dieu fait passer son peuple dans le désert, qu'est-ce qu'il entend des fois? Il les entend murmurer. Ouais. Ha! Il les entend murmurer. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? C'était quand même mieux en Égypte. Qu'est-ce que j'ai été faire à me faire baptiser et d'être là au 275 avenue Domi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les païens autour de lui. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es rentré dans une secte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu dans sa grâce veut nous montrer que ce matin, il est capable de tout changer, de tout transformer et faire de nous des hommes et des femmes dans une nouvelle créature qui pouvons le glorifier et le bénir. Frères et sœurs, dans le désert, on murmure. Et qu'est-ce qu'il a fait le peuple de Dieu dans le désert? Il a critiqué. Hein? Non, c'est pas ici, il n'y a pas de critique. Mais dans le désert. Et vous savez qui c'est qui a été critiqué? Ceux qui faisaient rien ou ceux qui travaillaient? C'est toujours ceux qui travaillent. Et qui fait dire à ceux qui ne feront pas, « Oh, il n'y a qu'à !» Oui. Et quand tu dis, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Il n'y a qu'à. Et alors un jour, il y a eu un mariage entre Moïse et une femme de couleur, mes frères et sœurs. L'élan racisme est venu dans le peuple de Dieu et ils ont critiqué Moïse à cause de la femme qu'il avait prise. Je sais que ça n'existe plus, on critique plus les gens quand ils se marient, mais à l'époque c'était comme ça. Et c'est dans le désert que tout ce qui est mauvais, l'écume est en train de sortir, le murmure. Les critiques, la rébellion, ils se sont rebellés contre Dieu en disant « Retournons en Égypte !» Voilà ce que Dieu a vu dans le désert. Et pourtant, Dieu nous dit ce matin, malgré ta révolte, tes murmures, tes critiques, je suis capable de faire toute chose nouvelle. Voulez-vous que nous ayons un instant de prière? Mes frères et sœurs, on peut espérer parce que Jésus va nous aider. Maintenant que vous avez la tête baissée, voulez-vous chanter ce petit cœur que je vous ai appris il y a plusieurs mois, avant le virus, qui dit « Jésus prie, oui, il prie pour moi. J'ai tant besoin du Seigneur. Jésus prie, oui, il prie pour moi. Je le sais, je le crois, je le vois. » Vous vous en rappelez? Jésus prie, oui, il prie pour moi, car j'ai tant besoin du Seigneur. Encore, Jésus prie, oui, il prie pour moi, je le sais, je le crois, je le vois. Jésus prie, oui, il prie pour moi, car j'ai tant besoin du Seigneur. Jésus prie, oui, il prie pour moi, je le sais, je le sais, je le crois, je le crois.